France Inter.
Nous, on est parti en ce jour férié, rien ne change. Soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, un grand pont.
Celui de l'Ascension, couplé à ce mercredi férié, résultat 1500 km de bouchons au pic de la journée. Tellement de monde que les sites touristiques se sont préparés spécifiquement à accueillir le public tout au long du week-end, vous l'entendrez.
Et les autres titres, Kevin ?
Marseille rayonne à l'heure d'accueillir la flamme olympique. Nous serons sur le Vieux-Port. Dans ce journal aussi, la situation au Proche-Orient. Israël assure que l'aide humanitaire entre à nouveau à Gaza, mais l'ONU s'inquiète pour le bon fonctionnement des hôpitaux. Un devoir de visite pour les pères dans les familles monoparentales. La proposition d'Emmanuel Macron ne fait pas l'unanimité.
Et on en parle avec Fatima Benomar, elle est présidente du collectif féministe Coude à Coude et c'est l'invitée de ce journal.
Et puis fin de partie pour AstraZeneca, le laboratoire britannique retire ses vaccins Covid du marché.
Dans le 18-20 ce soir, je vous emmène plonger dans la communauté LGBT en Russie. Avec ceux qui sont restés, avec ceux qui se cachent, avec ceux qui ont fait le choix de partir pour leur survie. Et c'est le cas de Sergueï Chikalov. Il est notre invité, il en a écrit un livre. Il sera donc avec nous. Le reportage d'un jour dans le monde va vous faire prendre le vent et le vent du large surtout, puisque la flamme arrive chez nous. Nous irons sur le spot de surf des JO. La vague monstrueuse de Tahiti. Il l'appelle, figurez-vous, la mâchoire. Kevin, vous nous parlerez de diplomatie de Laurent Houton. Ça se passe en Malaisie. Tiens, encore des singes sur la planète du même nom. C'est le cinéma en VO avec Corinne Pellissier. Puis dans le monde à 18h50, Claude Dibal se demande si l'Égypte a été piégée dans l'accord de trêve à Gaza. Dans le téléphone sonne, c'est en deuxième heure, puisque la flamme olympique a le bon goût d'arriver pile chez nous, et bien on va l'accueillir dignement avec nos invités. Vous nous direz, vous, si ces JO deviennent concrets pour vous, si avec la flamme vient aussi l'étincelle de l'engouement ou pas du tout.
France Inter.
Comme un parfum de grandes vacances.
Autour de 1500 km de bouchons cumulés dans toute la France ce midi. On va y revenir. Des gares noires de monde, des TGV complets, du beau temps presque partout. Nous ne sommes pourtant pas en plein chassé-croisé de l'été, mais bien au pont de l'Ascension, super pont, même ou viaduc, comme vous préférez, avec ce mercredi 8 mai férié. Lui aussi, ce soir, celles et ceux qui ont la chance de pouvoir partir durant ce long week-end sont bien contents d'être arrivés et de profiter du soleil, comme ici à Argelès-sur-Mer.
6 jours, c'est pas mal, ça va.
C'est clair que ça fait du bien. Là, faire une petite pause dans le travail et prendre du temps un peu en amoureux.
Détente et repos avant les partiels.
Tant qu'il fait pas 40 degrés, moi, c'est ça qui me va.
Bah, on s'est pris un week-end sympathique, quoi.
La piscine.
On profite.
On se croirait pas un peu en été, là?
Un peu, ouais. Surtout les jours avant, c'était pas trop ça. Donc là, le soleil, c'est agréable.
On glande au soleil, il se passe rien de spécial, quoi.
Mais c'est ça, les vacances?
Voilà la parole de vacancier dans les Pyrénées-Orientales au micro de Suzanne Chaudjahi, France Bleu, Roussillon. Et bonsoir Sarah, bonsoir.
Bonsoir Kevin.
Faut-il encore arriver à destination? Il y a encore des ralentissements ce soir, mais c'est surtout à la mi-journée que les courbes de Bison Futé se sont littéralement envolées.
Oui, Bison Futé annonce à l'instant près de 2000 km cumulés vers midi. C'est une circulation plus qu'exceptionnelle, très très au-delà d'un 8 mai habituel et même des prévisions de Bison Futé qui avait une carte orange partout dans le sens des départs. Cet après-midi, quelques surcharges encore aux alentours de Rennes, Nantes, Bordeaux ou Caen dans l'ouest, mais aussi et surtout dans le sud qui compte les axes les plus chargés, la 7 entre Valence et Orange, la 9 vers l'Espagne ou entre Béziers et Narbonne. Circulation dense également sur la 10. Globalement, les routes allant vers le littoral ont été les plus empruntées.
Beaucoup de bouchons donc, Sarah, mais les sites touristiques sont-ils prêts à accueillir tout ce monde?
Plusieurs en tout cas ont pris des mesures. Au château de Chambord par exemple, on ouvre des parkings supplémentaires, on recrute des saisonniers aguerris. On y conseille aussi, comme à Giverny, à la maison de Claude Monet, de venir plus tôt. Le site a décidé également de limiter les réservations en ligne. C'est aussi le cas au zooparc de Beauval, son directeur Rodolphe Delors.
Nous avons fermé il y a quelques jours, pour certains jours, nos ventes de billets datés. Ils peuvent toujours les acheter pour samedi et dimanche. Nous avons allongé nos amplitudes horaires d'ouverture dès 8h du matin et nous fermons à 21h. Ça fait 3 heures de plus. Nous avons aussi ouvert des allées supplémentaires. Nous avons rajouté des collaborateurs d'accueil, des collaborateurs de sécurité. Beaucoup, beaucoup de personnel pour réguler la fréquentation. Le week-end démarre parfaitement. mouvement. Nous verrons demain et après-midi.
Demain et vendredi, en effet, s'annoncent les plus chargés. Mais cette année, les visiteurs disposent d'un jour de plus dans ce grand week-end de l'Ascension et devraient se répartir un peu mieux sur tout le territoire, vu qu'il fait beau partout en France.
Sarah Mansoura, et je ne voudrais pas décourager déjà ceux qui sont en long week-end, mais Bison Futé classe ce dimanche noir dans le sens des retours pour tout le quart nord-ouest, rouge partout ailleurs.
À Gaza, la crainte d'un nouveau désastre humanitaire.
D'après l'Organisation mondiale de la santé, il ne reste que 3 jours de réserve de carburant aux hôpitaux du sud de l'enclave palestinienne pour fonctionner correctement, alors que le point de passage de Rafah est toujours fermé par Israël. Rafah, où l'armée israélienne poursuit ses bombardements qu'elle décrit comme ciblés, pendant qu'au Caire, toujours aucun signe d'avancée en faveur d'une trêve. À Tel Aviv, la correspondance de Farida Noir.
Rien pour le moment, mais la délégation israélienne est toujours sur place pour continuer les pourparlers selon les médias israéliens. Pendant ce temps, à Rafah, les conditions sont terribles pour tous les déplacés qui y ont trouvé refuge. Et faute de carburant, les hôpitaux du Sud pourraient bientôt cesser de fonctionner, dénonce l'Organisation mondiale de la santé. Ce matin, sous la pression américaine, l'armée israélienne a annoncé la réouverture du point de passage de Kerem Shalom pour faire entrer de l'aide humanitaire, des camions avec de la nourriture, de l'eau, des abris, des médicaments. Et ce soir, une vidéo de l'armée diffuse il y a quelques minutes, montre des camions blancs qui entrent dans la bande de Gaza par ce terminal, indique le communiqué qui lui est associé. Un deuxième passage depuis Israël, celui d'Erez, d'où l'aide est transférée vers le nord de Gaza, continue de fonctionner selon Tsahal. Les combats, eux, sont toujours aussi féroces. Dans l'est de Rafah, le gouvernement du Hamas, dans la bande de Gaza, affirme également aujourd'hui que 49 corps ont été extraits d'une nouvelle fosse commune découverte à l'hôpital Al-Shifa, le principal complexe hospitalier du territoire palestinien.
Farida Noir, envoyé spécial de France Inter au Proche-Orient et en France. Pas de nouvelles manifestations pro-palestiniennes dans les universités. Aujourd'hui, elles sont fermées, pont oblige. Et puis, les autorités semblent vouloir se montrer très fermes avec les manifestants. Lundi, le Premier ministre Gabriel Attal martelait qu'il n'y aurait jamais de droit au blocage. Et hier soir, à la Sorbonne à Paris, les étudiants mobilisés ont été évacués fermement par la police. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Sur une centaine d'étudiants, 86 ont été placés en garde à vue.
C'est sûr que ça rappelle un peu les méthodes du préfet l'Allemand. Tout le monde en garde à vue et ensuite, c'est le procureur de permanence qui décide au cas par cas des suites judiciaires. Selon nos informations, le préfet de police actuel, Laurent Nunez, a répondu initialement à un appel du rectorat de Paris sur l'occupation d'un amphithéâtre de la Sorbonne. Mais cela répond aussi, vous venez de le dire, aux consignes du Premier ministre lundi soir de Gabriel Attal, qui avait prévenu donc effectivement sur le fait qu'il n'y aurait jamais de droit au blocage. Et on voit bien que la ligne rouge avec intervention immédiate, c'est dès qu'il y a occupation à l'intérieur d'un bâtiment, surtout quand il y a en plus des dégradations et des agents de sécurité blessés, selon nos informations, comme ce fut le cas hier soir. Résultat, ça a duré près de 3 heures. Une source policière nous confiait tout à l'heure à quel point c'était costaud, avec des interpellations parfois musclées. Ça courait dans tous les sens. Certains se sont échappés. Les 86 gardés à vue, en tout cas, ont été répartis dans plusieurs commissariats parisiens. Ils peuvent y rester jusqu'à 48 heures maximum.
Emmanuel Leclerc, service police-justice de France Inter. Un internet libre et ouvert est fondamental à Hong Kong. Réaction ce soir des géants de la tech, X, Google ou encore Apple, après l'interdiction d'un champ pro-démocratie décidé par le gouvernement pro-Pékin, qui demande à toutes les plateformes internet de retirer cette chanson Glory to Hong Kong de leurs espaces. On y revient dans le journal de 19h.
24 heures après, la proposition d'Emmanuel Macron fait débat.
Le président de la République dit vouloir ouvrir le débat sur la mise en place d'un devoir de visite pour les pères auprès des enfants qui vivent dans une famille monoparentale la grande majorité du temps, donc avec leur mère. Il faut que ces femmes puissent exiger des visites régulières, dit Emmanuel Macron. Le devoir d'être parent ne s'arrête pas au moment de la séparation, poursuit-il, mais plusieurs élus et associations questionnent cette mesure.
Bonsoir Fatima Benomar.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes militante féministe, vous présidez le collectif Coude à Coude et vous avez, avec beaucoup d'associations féministes, été pour le moins interloquée par cette proposition qui part du principe donc qu'une famille, au fond, est un père et une mère. Est-ce que c'est par là que commence votre position ?
Oui, effectivement, une espèce de mobilisation de champ lexical, encore une fois, qui exclut la diversité des familles et qui assène qu'il faudrait un papa et une maman pour préserver l'équilibre familial. Mais nous, on perçoit surtout une méconnaissance des dynamiques qui se passent à l'intérieur des familles monoparentales. Déjà, la première chose qui les pénalise, c'est vraiment la question de la pauvreté. Mmh. Donc, plus de 4 sur 5 des familles monoparentales ont à leur tête une femme. Dans la moitié des cas, ces femmes sont en dessous du seuil de pauvreté. Et dans le tiers des quelques hommes qui sont à la tête de familles monoparentales, c'est vraiment le tiers de ces hommes qui sont sous le seuil de pauvreté. Il faut tenir extrêmement une grande vigilance sur la question des éventuelles violences au moment des séparations, faire bien attention à ne pas re-infliger un contact entre un homme possiblement violent et sa femme et les enfants. Et puis, il faut interroger le fait d'obliger des pères démissionnaires qui, pour les cas qui sont, dont on parle ici, ne veulent pas revoir leur enfant. Et donc, est-ce qu'on veut vraiment forcer l'enfant à regarder dans les yeux de son père traîné par la justice pour venir le voir, d'être confronté à un parent démissionnaire qui ne veut pas de lui et qui ne lui opposera que froideur et méchanceté.
Dans les mots du président de la République, dans cette interview qui est à paraître demain, il dit « Un enfant qui ne voit jamais son père est un enfant qui se sent abandonné ». Cette phrase-là, elle vous inspire quoi ? Est-ce que vous avez le sentiment, au fond, que là aussi, il est hors de la réalité, le président ? C'est votre sentiment ?
En fait, c'est une réalité partielle. Ça peut correspondre à certains cas, mais ce n'est absolument pas une réalité absolue. Il y a d'autres enfants qui sont protégés de ne pas voir leur père, ou bien parce qu'il peut être violent dans certains cas, et aussi parce qu'on parle de pères qui ne rendent plus visite à leurs enfants. Mmh. Donc, il va y avoir une espèce de violence psychologique au fait que l'enfant... En fait, c'est plus grave et plus douloureux pour l'enfant de voir un père qui vient de force plutôt que de ne plus le voir au final. Et puis, c'est vrai qu'il y a, on va dire, tout un contexte très problématique dans la manière dont le gouvernement aujourd'hui aborde la question des familles monoparentales. On passe sur l'histoire du rarement démographique, sur la responsabilisation des familles monoparentales qui a ciblé les mères solos dont les enfants ont été interpellés pendant les révoltes suite à la mort du jeune Naël. Donc il y a plutôt un espèce de discours autoritaire et offensif qui ne tient pas compte de la réalité auquel la plupart du temps ces femmes sont confrontées.
Ceux qui estiment que l'idée peut être intéressante, souligne notamment le fait qu'on stigmatise les mères quand les enfants posent problème et que derrière cette proposition, il y a l'idée de responsabiliser aussi les pères, Fatima Benomar.
Alors nous déjà, la première chose sur la responsabilisation qu'on veut pointer, c'est vraiment la question de la démission entre guillemets financière. Mmh. Aujourd'hui, pour vous la faire courte, la CAF est censée verser un montant complètement arbitraire quand il y a non-paiement de la contribution alimentaire. Donc il y a beaucoup d'hommes, non seulement ils sont démissionnaires dans leur devoir éducatif, mais aussi dans leur devoir financier. C'est-à-dire qu'en plus, ils vont dire maintenant aux femmes, ouais c'est bon, tu n'as qu'à demander ça à la CAF. En plus, il y a la condition de la monoparentalité, c'est-à-dire qu'on oblige ces femmes à déclarer à la CAF si elles voient un homme en ce moment ou pas. Donc il y a flicage de la vie affective et sexuelle de ces femmes en plus. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est vraiment et il ne faut pas oublier aussi que quand ces femmes portent plainte pour abandon de famille et non versement de cette contribution alimentaire, c'est j'appuie mes mots, systématiquement classé sans suite. Mmh. On a une avalanche de classements sans suite. Ça, pour le coup, la question de la responsabilisation et ne pas abandonner ces femmes dont j'ai dit que la plupart étaient sous le... Enfin, un grand nombre étaient sous le... Enfin, la moitié sont sous le seuil de la pauvreté. Ouais. C'est ça qu'il faut... Mais c'est certainement pas en faisant juste une espèce de loi autoritaire en disant « Tu as le devoir d'aller visiter tes enfants que tu ne calcules plus depuis des années. Mmh. » Il faut vraiment des lois qui abordent vraiment comment faire que ces femmes puissent pouvoir vivre correctement.
L'interview du président, en tout cas, elle est à lire dans Le L à paraître demain. Fatima Benomar, vous êtes présidente du collectif Coude à Coude. Merci beaucoup.
L'actualité ce soir, c'est aussi cette enquête ouverte à Écopont dans le Nord après les dégradations du monument aux morts de la ville qui devait être inauguré ce matin à l'occasion des commémorations du 8 mai. Des croix gammées, des inscriptions homophobes ont été découvertes sur le monument. Enquête ouverte pour dégradation de biens du d'utilité publique. À Bourgoin-Jallieu, en Isère, c'est le Secours populaire qui a une nouvelle fois été pris pour cible. Un centre de stockage de l'association a été cambriolé ce week-end. C'est la troisième fois en 6 mois des vêtements de l'électroménager ont été dérobés. Et sur place, les bénévoles sont désemparés, Noémie Philippot.
Les cartons retournés, des centaines de vêtements en bazar et piétinés. Chantal Guérino tremble un peu en se rappelant de la découverte.
On est allé voir sur place, ça nous a vraiment choqués. Hein. Nous, ça nous a coupé les jambes, on n'a même pas mangé, on a pleuré. Ça nous touche énormément.
Ce stock, ça représentait des heures de travail pour préparer le grand bric-à-brac du Secours populaire.
On avait passé 2 semaines à tout bien ranger, on était assez satisfaits de notre rangement. Et tout est à recommencer avec encore plus de travail puisque tout a été éventré, souillé, dégradé. Il y a des choses qui ont disparu également. C'était le tri final et il est à recommencer intégralement.
Martial Manin est le secrétaire général adjoint du comité Porte de l'Isère. Lui et les bénévoles ont rapidement repris les choses en main.
On a d'abord cherché des chaises pour s'asseoir parce que les jambes ne nous portaient plus bien. Et puis on a pensé aux accueillis, c'est ce qui a permis de redémarrer. La difficulté, ça a été de trouver par quel bout commencer. Passé le moment de sidération, on s'est attelé à la tâche et il y a à peu près un gros tiers du travail qui est accompli.
Et s'il manque trop de vêtements ou d'objets pour la braderie, ils pourront compter sur les renforts de la Fédération de l'Isère. Le secrétaire général Nabil Chetouf est venu apporter son soutien à Bourgoin-Jallieu.
On apportera notre logistique et toute l'aide nécessaire pour que l'activité ne cesse pas. On sera toujours debout, même si vous voulez nous faire mal, on sera toujours là.
Après ce cambriolage, l'association va porter plainte.
Noémie Philippot, France Bleu, Isère.
Conclure ce chapitre.
Celui du Covid, ce sont les mots aujourd'hui d'AstraZeneca, le géant pharmaceutique britannique qui annonce qu'il retire de la vente son vaccin contre le Covid-19 qui a été l'un des premiers à proposer fin 2020. Une décision prise en raison du déclin de la demande, dit le laboratoire. Bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir.
AstraZeneca ne vend plus assez de flacons.
Oui, c'est ça. Et on peut même aller jusqu'à parler, semble-t-il, de disparition totale de la demande puisque le fabricant explique, je cite, qu'il n'y a plus eu de vente de son vaccin depuis un certain temps. L'entreprise se dit tout de même fière du rôle joué par celui-ci, vaccin développé, rappelons-nous, avec l'université d'Oxford, sorti 7 mois seulement après le début de la pandémie. Il avait d'ailleurs un peu pris de vitesse tous les autres acteurs. AstraZeneca estime à plus de 6 millions le nombre de vies sauvées grâce à sa fabrication la première année. Mais depuis, l'efficacité et puis le rapport bénéfice-risque de ce vaccin ont progressivement chuté, car le Vax Zevria, c'est son nom, repose sur ce qu'on appelle un vecteur viral non réplicatif. Ce n'est pas un vaccin à ARN messager. Il est donc plus difficile à actualiser pour suivre l'évolution des mutations du virus. Résultat, analysent les spécialistes, alors qu'il avait une très forte utilité il y a 3 ans et demi, lorsque la demande était très importante et les vaccins encore trop rares, eh bien, il en a beaucoup moins aujourd'hui. Il fallait donc s'attendre à cette décision. À noter que d'autres laboratoires pharmaceutiques travaillent aujourd'hui sur des vaccins combinés grippe plus Covid qu'on devrait voir apparaître sur le marché d'ici 1 ou 2 ans.
Claire Chaudière, service économie de France Inter. Première victoire française ce soir sur le Tour d'Italie cycliste. Au terme de la 5e étape, Benjamin Thomas s'est imposé au sprint devant ses camarades d'échappée à Lucca en Toscane. Il offre ainsi un premier succès de la saison à son équipe Cofidis. Y aura-t-il une finale de la Ligue des champions de football 100% allemande? Le Bayern Munich espère bien rejoindre le Borussia Dortmund. Pour ça, il faudra battre le Real Madrid sur son terrain ce soir. Coup d'envoi de la demi-finale retour à 21h. Ça avait fait 2 partout à l'aller. Enfin, partons pour Marseille, sous le soleil et en pleine fièvre olympique, parce que c'est sur le Vieux-Port que commencent aujourd'hui les Jeux de Paris. Elle arrive à bord du Belém, la flamme olympique, sur le 3-mâts depuis 12 jours. Il lui a fait traverser la Méditerranée depuis la Grèce. Bonsoir Philippe Randé.
Bonsoir.
Ce matin, on a vu ces images incroyables, hein, la parade nautique, 1000 bateaux pour escorter le Belém. La flamme va toucher terre dans un peu plus d'une heure maintenant.
Oui, cette fois c'est l'heure, moins une heure, mais comme tout le monde est là depuis ce matin, on a l'impression que le Belém n'a jamais été aussi prêt. Alors on ne le voit pas encore, hein, ici sur le Vieux-Port, on le voit sur les écrans géants. Il a navigué, vous l'avez dit, depuis 11h ce matin au large de Marseille et tout est prêt. La piste d'athlétisme flottante, le chaudron installé sur le Vieux-Port, la scène où se produiront Soprano et Alonso ce soir, les dizaines de milliers de Marseillais collés contre les barrières, agglutinés sur les balcons et les bateaux. Manque donc le 3-mâts, manque la fameuse flamme qui descendra dans la main de Florent Manaudou, avec évidemment une question: qui va allumer ce chaudron, cet anneau métallique de 1,35 m de diamètre ici au bout du Vieux-Port. Les rumeurs bruissent dans toute la cité phocéenne. Plus qu'une heure et quelques d'attente donc, et c'est promis, on vous fera vivre cet instant en direct tout à l'heure dans le téléphone sonne.
Et oui, merci Philippe. Rendez en direct donc du Vieux-Port de Marseille, la flamme qui restera à Marseille demain avant de commencer son tour de France par le Var vendredi, arrivée à Paris, bien sûr, le 26 juillet.
Voilà, elle arrive pile dans le téléphone sonne. C'est bien fait cette affaire de flamme.
Je sais que vous l'aviez demandé expressément à l'organisation.
C'est ce que j'ai appelé, absolument. Merci beaucoup Kevin, vous reviendrez tout à l'heure en passant sous les radars et vous arriverez notamment au Kenya.